France Inter.
Aujourd'hui, pourquoi l'écologie perd toujours, raconté par
Clément Sénéchal, auteur et militant écologiste.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Octobre 1971, un petit chalutier quitte Vancouver et s'avance vers l'île d'Amchitka en Alaska où doit avoir lieu un essai nucléaire américain. À bord, une poignée de militants, de journalistes et de rêveurs embarqués dans une aventure aux contours encore flous. Leur plan, se placer physiquement sur la trajectoire de la bombe et opposer un bateau de bois à la puissance atomique. Ils n'empêcheront rien, la bombe explosera. Bob Hunter, l'un des fondateurs, écrira même « J'étais en train d'écrire le récit d'un échec ». Et pourtant, cet échec devient l'image fondatrice de Greenpeace, un minuscule navire défiant la méga-machine militaire, un acte de désobéissance qui filmait et médiatisait invente sans le savoir une nouvelle grammaire militante, celle de l'écologie spectacle où l'impact symbolique pèse parfois davantage que le résultat obtenu. Un demi-siècle plus tard, le 3 juin dernier, l'une des dernières actions de Greenpeace France ne se déroule plus dans les eaux glacées du Pacifique mais dans les couloirs feutrés du musée Grévin. Les militants y empruntent la figurine d'Emmanuel Macron avant de la déposer de nuit devant le siège d'EDF pour dénoncer les liens persistants entre la France et la Russie dans le domaine énergétique, notamment nucléaire. Exhibée successivement devant l'ambassade de Russie, puis face aux géants de l'électricité, la statue devient un outil de mise en scène. Entre l'Alaska et le musée Grévin, un demi-siècle de lutte et une même question, comment une certaine écologie, en cherchant à frapper les esprits, s'est-elle peu à peu enfermée dans ses propres mises en scène, en multipliant des gestes qui relèvent parfois davantage de la performance que du rapport de force? À quel moment le spectacle commence-t-il à désarmer l'action qu'il prétend servir? Et surtout, que perd l'écologie lorsqu'elle se contente de symboles alors que la crise climatique exigerait des ruptures d'une toute autre ampleur? C'est cette histoire que nous allons vous raconter.
C'est une telle folie qu'il nous paraît assez logique de passer à l'attaque. Parce que nous sommes en présence de deux cas de folie. Il y a la folie de la guerre froide et la folie du « polluons à tout prix, on s'en fout, l'important c'est de faire du fric ». Donc on s'attaque à ces deux folies. Le but de Greenpeace, c'est d'arrêter la bombe à Amchitka.
Archive donc de Greenpeace, Bob Hunter à l'époque en 1971, extrait d'un documentaire « L'aventure Greenpeace » de Thierry de Lestrade sur Arte et Paul Watson, « Une vie pour les océans ». Bonjour Clément Sénéchal.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes l'auteur d'un livre qui a fait grincer pas mal de dents chez les écolos au moment de sa sortie l'année dernière. Son titre donc « Pourquoi l'écologie perd toujours ?» C'est aux éditions du Seuil. Une version poche vient de paraître avec une postface dans laquelle vous racontez les réactions qu'a suscité votre livre dans le milieu écologiste, on va dire institutionnel. On va en reparler. Vous avez travaillé à Greenpeace France, Clément Sénéchal. Vous avez été chargé de campagne sur la déforestation et le climat. C'est cette expérience qui nourrit une grande partie d'ailleurs de votre analyse critique dans ce livre, notamment sur l'écologie du spectacle et puis aussi les limites structurelles des ONG environnementales. Dans quel contexte est-ce que vous avez quitté Greenpeace?
Alors j'ai quitté Greenpeace à la fin de l'année 2022 et ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est un événement politique objectif qui est la réélection d'Emmanuel Macron cette année-là, où grosso modo, mon organisation est restée parfaitement passive, a refusé de peser sur le résultat du scrutin. Moi, j'avais été payé pendant des années pour constater jour après jour l'inanité des politiques écologiques d'Emmanuel Macron. J'étais salarié d'une organisation qui était hostile à toute forme d'insurrection ou de révolution, et donc qui prenait une voie pacifique pour transformer la société. Et donc, la voie électorale apparaît évidemment comme un levier tout indiqué pour cette écologie-là. Or, nous sommes restés passifs, c'est-à-dire que nous n'avons pas été en capacité de thématiser le vote comme un levier pour transformer les choses sur le plan écologique et notamment obtenir des politiques publiques peut-être un peu plus favorables que celles d'Emmanuel Macron. A fortiori, nous avons été incapables de soutenir le vote utile qui a émergé à l'époque. Et à l'époque, il n'y avait pas besoin d'être mélenchoniste pour voter Jean-Luc Mélenchon. C'était simplement le vote le plus utile, le plus en dynamique, et qui en l'occurrence a échoué à 400 000 voix près. C'est un programme qui a obtenu la plus haute note parmi l'évaluation, dans toutes les évaluations qui étaient faites par le milieu environnemental. On avait des millions de signataires, de pétitionnaires sur l'affaire du siècle, donc la condamnation de l'État pour une action climatique. On n'en a strictement rien fait à cette occasion. Et les belles alliances...
Il y a quand même une condamnation de l'État, quand même.
Absolument symbolique, mais qui n'a pas pesé, qui n'a entraîné aucun changement dans la nature des politiques publiques qui ont été menées par la suite par Emmanuel Macron. Et juste, on termine sur l'élection, mais on n'avait plus jamais ça, ou en face avec le VVF et la CFDT, le pacte pouvoir de vivre. Et c'était à ce moment-là qu'il fallait constituer peut-être un front populaire pour peser sur les élections, parce que la menace de l'extrême droite, elle était déjà très haute. Or, toutes ces belles alliances ont été mises en sommeil. Et c'est le moment où je me suis dit, en fait, on s'arrête toujours avant d'être utile, on s'arrête en lisière du spectacle, avant que nos positionnements mènent à prêtent à conséquence, avant de se salir les mains et d'obtenir des débouchés politiques réels. Et c'est là où j'ai commencé à m'interroger, mais en fait, d'où viennent ces dynamiques dépolitisantes à laquelle je m'affronte en permanence dans ce milieu-là, et c'est là que j'ai commencé un travail historiographique qui m'a donné accès aux origines de ma propre organisation. Et là, vous avez parlé de la première campagne dans la présentation. Ce qui est intéressant de dire quand même, c'est que les protagonistes de l'époque ont décidé de leur propre chef de faire demi-tour. Et c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas essayé, au final, d'empêcher réellement les essais nucléaires d'avoir lieu. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait le calcul qu'en fait, le fait d'être médiatisé, le fait qu'on couvre dans la presse mainstream, c'était le début des mass médias en plus, était une victoire suffisante et que finalement, ce qui se passait sur le terrain était très secondaire. Et c'est là qu'est né ce que j'appelle l'écologie du spectacle.
Ou la médiatisation. Et on n'en est pas sorti donc depuis, c'est ce que vous nous dites aussi, finalement, depuis cet acte fondateur pour Greenpeace, il y a toujours ce modèle dépolitisé, bourgeois et donc non conflictuel qui s'est perpétué au fil des temps.
Absolument, qui est omniprésent. L'écologie du spectacle, c'est une écologie de la mise en scène, des apparences, de la surface, une écologie décorative, en fait une écologie symbolique, où la médiatisation n'est pas un outil au service de la lutte, mais devient strictement une fin en soi. Et le calcul derrière, c'est de se dire, il suffit de rendre l'écologie visible pour qu'elle devienne mécaniquement et comme par magie effective, ce qui est une illusion totale.
Ça ne marche pas du tout.
Ça ne marche pas du tout. Et aujourd'hui, on a... Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que derrière, il y a le paradigme de la sensibilisation qui, en fait, est assez contre-intuitif, mais qui est complètement antithétique avec l'impératif de politisation. Pourquoi ? Parce que derrière, on se dit, il suffit de rendre encore une fois l'écologie visible pour obtenir des conséquences concrètes, notamment des politiques publiques, par exemple. Et donc, pour rendre l'écologie visible, on va être le plus consensuel possible. Et donc, on va expurger toute forme de conflictualité dans le traitement de la question environnementale. Et donc, quand on commence à faire ça, il y a un réflexe qui vient très vite, qui est de nier les antagonismes de classe à l'œuvre dans la société. Et par voie de construction, on en vient à invisibiliser le mode de fonctionnement du capitalisme, c'est-à-dire notre rapport social aux écosystèmes. Et donc, on va perdre de vue les racines réelles du ravage écologique et donc les rapports de force qui structurent la problématique écologique.
C'est une des critiques que vous faites d'ailleurs à l'égard des écologistes institutionnels, c'est d'être en incapacité précisément de critiquer ouvertement et frontalement le capitalisme. Aujourd'hui, Clément Sénéchal, le 8 décembre, c'est la journée mondiale du climat qui a été créée en 2009 à l'initiative de plusieurs ONG. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, une telle journée ?
Rien du tout, ça reste du spectacle. Hein. L'écologie du spectacle, vous me posez la question auparavant, est encore omniprésente et elle a plusieurs déclinaisons. La première, c'est le banderolisme ou le happening récréatif dont Greenpeace reste spécialiste aujourd'hui. Ou ce qui compte, c'est beaucoup moins le blocage ou le sabotage d'industries polluantes que l'image. Tout est fait pour obtenir des images. Mais il y a d'autres déclinaisons. C'est aussi les engagements volontaires, les labels, les certifications qui vont venir verdir artificiellement le langage de la marchandise. C'est aussi le fait de servir de partenaire événementiel du pouvoir. Ça a été le cas sous Emmanuel Macron, avec les One Planet Summit, les états généraux de l'alimentation, les conseils de défense écologique, le grand débat, la convention citoyenne pour le climat, évidemment. Ça a été le cas, en fait... de manière fondatrice en quelque sorte avec le Grenelle de l'environnement en 2007, où là on avait Yannick Jadot qui était directeur des programmes de Greenpeace à l'époque, Nicolas Hulot évidemment, Arnaud Gossement qui dirigeait la FNE, qui ont participé à ça, qui étaient négociateurs dans cet espace-là, et qui donc ont essayé de nous vendre le fait que Nicolas Sarkozy, la droite dure, allait écologiser la société française, ce qui est une hérésie. Et
donc
ce qui
ça
a
veut dire quoi, que
sur des,
tout, tout le monde est tombé
promesses.
Dans le panneau finalement?
En tout cas, je pense pas tout le monde, mais en tout cas, les gradés de l'écologie sont tombés dans le panneau, ou à mon avis servent les idées, sont en fait les idiots utiles de ce que moi j'appelle le bloc bourgeois. Donc c'est le fait de servir de partenaire événementiel. C'est aussi une manière plus poussée qui est de participer directement à des gouvernements néolibéraux qui sont hostiles à la transition écologique par essence et de leur offrir une espèce de caution verte. Ça a été le cas sous François Hollande, avec des gens comme Pascal Canfin ou Cécile Duflot. Ça a été le cas sous Emmanuel Macron. Récemment encore, on a vu que Sébastien Lecornu a réussi à débaucher... Monique Barbu, qui est une ancienne présidente du WWF, qui s'est dit « Ah bah voilà, les conditions là sont vraiment réunies pour que j'entraîne une transformation écologique du pays et de la 5e République ». Et c'est aussi, ça va peut-être vous intéresser, c'est aussi un certain rapport aux journalistes. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'étais à Greenpeace, il était strictement interdit de critiquer ou d'engager une interaction contradictoire avec un journaliste.
Pourquoi ?
Ils étaient considérés comme des vaches sacrées, en réalité, donc on ne pouvait pas problématiser leur activité. On ne pouvait pas contredire ce qu'ils avançaient, alors que les journalistes, ils ont aussi un certain agenda, ils dépendent aussi de certains rapports de force matériels.
Pourquoi ? Parce que c'est la communication qui prime avant tout ?
Parce que les journalistes donnent accès à l'espace public.
Et non, donc mais pour une organisation comme la vôtre,
absolument,
à l'époque.
Parce que les journalistes donnent accès à l'espace public, sont des gatekeepers, entre guillemets. Et donc, si on se met mal avec un journaliste, derrière, il y a le risque de perdre accès à certains médias, etc. Où ça se voit aussi dans la manière dont, par exemple, la secrétaire nationale des écologistes pratiquent l'interview politique. C'est-à-dire qu'elle, au lieu d'être dans la confrontation, dans la problématisation, y compris auprès de ses acteurs du débat public, qui sont pas des acteurs neutres et objectifs, eh bien, elle va être dans la connivence tout de suite. Elle va chercher, à base de blagounettes ou d'anecdotes personnelles, à séduire et à obtenir la sympathie du journaliste, souvent en débitant aussi des vacheries par rapport à la France insoumise. Ça, c'est ce qui garantit un accès privilégié à la presse. Alors que quand on regarde d'autres porte-paroles, typiquement la France insoumise, eux, ils sont dans un rapport beaucoup plus d'adversité avec tout un tas de journalistes.
Donc, c'est la bienséance qui prime, c'est ça, et qui empêche finalement toute forme de changement ?
C'est la bienséance qui prime, c'est une posture qui n'est jamais dans la critique réelle, jamais dans une conflictualité réelle, jamais dans une confrontation absolue, et qui est dans une forme de politiquement correct, de conformisme, de conservatisme, y compris sur le plan discursif, et qui ne permet pas en fait de penser et d'appréhender les tenants et les aboutissants du ravage écologique actuellement.
Donc aujourd'hui, à l'heure où nous avons dépassé 7 limites planétaires sur 9, une journée mondiale du climat, ça ne sert pour vous strictement à rien ?
À rien. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'une révolution collectiviste. C'est pas d'une petite journée événementielle pour parler du climat, 5 minutes sur les grands médias.
On va voir pour comprendre pourquoi, selon vous, l'écologie perd toujours. On va analyser justement les structures qui organisent aujourd'hui le champ militant, politique et institutionnel. Ce sera l'objet de la deuxième partie. Et puis Clémence Sénéchal, vous allez également répondre aux messages et aux questions qui ne manqueront pas d'arriver pour vous sur le site de la Terre au Carré. À tout de suite.
La Terre au Carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Encore une nouvelle COP. Je déclare ouverte la COP 27. À quoi servent donc ces réunions pour le climat ? Les pays riches sont ceux qui polluent le plus. 63% des émissions de gaz à effet de serre proviennent d'Europe, d'Amérique du Nord ou d'Australie. L'Afrique, elle, n'est responsable que de 3% des émissions mondiales et pourtant, elle subit la sécheresse, les famines. C'est à cela que doit servir cette COP en Égypte, sur le continent africain, porter la voix des pays émergents.
Sur TF1 en 2022, Clémence Sénéchal, vous êtes notre invitée cet après-midi à l'occasion de la sortie en poche de votre ouvrage « Pourquoi l'écologie perd toujours ?» La COP 27 de Sharm el-Cheikh en Égypte en 2022, vous y étiez ?
Absolument.
Pour Greenpeace, c'était votre dernier moment, d'ailleurs, quasiment pour l'organisation.
Absolument. Ouais.
Vous décrivez ce que vous avez vécu là-bas. Qu'est-ce que vous y avez fait exactement, alors, quand on est porte-parole de Greenpeace ?
On fait de la communication. et du plaidoyer. C'est-à-dire qu'on discute avec un certain nombre de protagonistes de plus ou moins haut niveau en essayant de les sensibiliser, encore une fois, à la cause climatique. Et évidemment, ça ne marche pas du tout. En fait, il faut quand même se rendre compte que ça fait un demi-siècle que le changement climatique est reconnu par les États et par les instances internationales. On en est à la COP 30, c'est-à-dire la 30e COP sur le climat. Ça fait 10 ans que l'accord de Paris existe et a été signé. Et pour autant, les émissions de gaz à effet de serre n'ont pas encore commencé à reculer. Et en fait, elles augmentent plus vite pendant cette décennie-là que lors de la décennie précédente. Pourquoi ? Parce que la consommation d'hydrocarbures continue d'augmenter. Donc à un moment donné, il faut peut-être se dire qu'il y a un problème.
Sauf que, est-ce que sans ces COP, ce ne serait pas encore pire, finalement ?
J'en sais rien, mais le fait est que
c'est
là...
C'est ce que disent tous ceux qui soutiennent quand même, malgré tout, le...
Oui, mais du coup, ils soutiennent un truc qui, objectivement, ne fonctionne pas. Donc à un moment donné, il faut peut-être faire une autocritique et essayer de voir comment corriger le tir. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? D'abord, l'accord de Paris, c'est un mauvais accord. C'est-à-dire qu'il y a une économie interne qui est extrêmement faible et qui ne permet pas de construire de la redevabilité sur les responsables, en l'occurrence les États. Ensuite, les COP, comme instance de gouvernance climatique, sont des espaces qui sont absolument dysfonctionnels. Pourquoi ? Parce qu'au nom de la société civile, on accueille des lobbies qui sont là en masse, qui viennent défendre les intérêts du secteur privé et qui viennent faire échouer, en général, les négociations.
On l'a encore vu là à Bellem avec le patron de Total Energy, par exemple, Patrick
Pouyanné, qui était sur place. Voilà, le patron de Total Energy, qui était dans la délégation de notre cher ministre de l'Environnement, Monique Barbu, ancienne présidente du WWF, qui n'avait pas de mal, a priori, à négocier et emmener dans ses valises le premier pollueur français. Et ensuite, on a un écosystème d'ONG qui sont aujourd'hui d'une grande lâcheté, qui va dans ces COP plutôt pour construire des carnets d'adresses, pour aller chercher du financement institutionnel, éventuellement quelques retombées médiatiques, mais qui sont incapables d'organiser du rapport de force. Ce qui était intéressant à Bellem, c'est qu'on a eu des populations autochtones qui ont forcé l'entrée de la zone bleue.
C'est
la zone
une des images qu'on garde de la COP 30, d'ailleurs.
Absolument. Ça, c'est un niveau de confrontation, par exemple, que Greenpeace, le chantre de la désobéissance civile, n'a jamais... auquel elle n'a jamais accédé ces dernières années. Pourquoi ? Parce qu'elle ne veut absolument pas perdre ses accès auprès de ces institutions qui sont pourtant complètement dysfonctionnelles et qui aujourd'hui, à mon sens, sont contre-productives parce qu'elles permettent de faire croire qu'il y a une prise en charge de la question climatique au niveau de la communauté internationale, alors que ça n'est pas du tout le cas et on est quand même dans une situation où on voit bien que le hiatus entre les conclusions, les communiqués de presse finaux de ces grandes messes climatiques et la trajectoire du réchauffement climatique et l'importance de ses conséquences est en train complètement d'exploser.
Donc, selon vous, il faudrait arrêter ces COP et les remplacer par quoi, alors, en l'occurrence ?
Je pense qu'il faut un nouvel accord qui soit plus sérieux sur l'action climatique. L'accord de Paris ne mentionne même pas la question des énergies fossiles. C'est quand même dingue. C'est comme si vous faisiez vous diagnostiquiez un malade du cancer sans identifier les tumeurs. Donc évidemment, derrière, il n'y a pas de solution de traitement efficace. Il faut réformer lourdement les espaces onusiens et exclure le capital de ces négociations-là.
Oui, mais ça, à l'échelle de la planète. Donc on voit les difficultés quand même.
À l'échelle de la planète.
On ne parle même pas au niveau de la France.
À l'échelle de la planète. Il faut qu'au nom de la société civile, ce ne soit plus des bureaucraties lucratives, mais des collectifs de militants, de populations qui soient acceptés dans ces espaces-là. Et on a besoin d'États, y compris, et peut-être en premier lieu au sein des grandes puissances mondiales, d'États collectivistes qui viennent à la table des négociations. Et donc ça passe par du rapport de force domestique et par le fait de mettre au pouvoir une hégémonie qui soit alternative.
Qu'est-ce que c'est
à
que des
celle
états,
du capitalisme.
Des États collectivistes, c'est quoi exactement ?
Des États qui ne sont plus des États bourgeois et inféodés à l'ordre capitaliste. Et donc ça passe notamment par des expropriations massives du capital, ça passe par une refondation en fait, du régime de propriété au sein de l'appareil productif, il faut passer à une propriété partagée qui soit mise sous contrôle social et démocratique à la fois des travailleurs et des usagers, des consommateurs. Il faut qu'il y ait un État qui organise une forme de planification, c'est-à-dire qui détermine une comptabilité écologique à partir de laquelle on sait quel volume, grosso modo, de matières premières, de ressources naturelles, on met en production de telle sorte que notre système économique reste, reste respectueux et encastré dans les limites physiques de la biosphère.
Donc c'est le retour à l'Union soviétique à l'échelle de la planète, si je vous écoute.
Non, 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 on peut avoir un collectivisme extrêmement démocratique, encore une fois je parle de propriété partagée, on peut avoir des segments entiers de la production qui soient placés sous des formes d'autogestion, on peut voir un principe de subsidiarité beaucoup plus avancé, où on fait de la commune l'échelon de la décision politique par excellence, avec des formes de démocratie directe avancée. En fait, un État collectiviste, les principes du collectivisme, c'est de dire les ressources essentielles appartiennent à la collectivité et pas à des individus privés. La production est organisée d'abord à partir des besoins sociaux. Et ce qui prime, c'est l'intérêt général et commun sur le profit individuel.
Et non pas, et comme donc, vous le citez, dire... la tyrannie des minorités, en fait.
Et donc, ça veut dire sortir le système économique de la tyrannie du profit, hein, c'est-à-dire démocratiser dans les grandes largeurs la production.
Clément Sénéchal, on le disait, c'est aujourd'hui la journée mondiale du climat. On va faire un petit retour en arrière en 2019, à l'occasion des manifestations extrêmement populaires à l'époque, justement, sur la question climatique. Ça fait l'objet d'un reportage sur France 2.
Ils n'avaient jamais été aussi nombreux dans la rue. À Lyon, l'imagination est au pouvoir pour crier sa colère. Slogan humoristique sur des cartons et pour sauver la planète, un engagement concret dans leur vie quotidienne.
Ben, je suis devenue végétarienne il y a 2 ans et je fais aussi attention au niveau du recyclage, j'essaie de recycler un maximum.
Moi par exemple, j'essaye de limiter les plastiques, je vais plus chez McDo, des trucs tout cons comme ça. Bon, ça touche un peu à notre confort personnel, mais mine de rien, ça fait quand même la différence.
Lycéens, étudiants et même élèves de primaire. La planète les a fait descendre dans la rue pour la première fois.
Clément Sénéchal, quel regard vous portez, vous, sur ces manifestations de la jeunesse à l'époque où vraiment ça mobilisait beaucoup de monde, ces grèves climatiques?
C'est un signal positif, hein. Ça a acté d'ailleurs l'échec des formats traditionnels d'intervention écologique qui étaient celle du plaidoyer ou la sensibilisation.
Donc ça a ringardisé un peu les ONG?
Ça a ringardisé complètement les ONG. C'est un moment donné où les populations ont essayé de reprendre en charge pour elles-mêmes la controverse environnementale. Le problème que je vois, moi, c'est que ces marches climat, en fait, elles ont été plutôt concurrentes que complémentaires avec ce qui se passait du côté des Gilets jaunes, qui était un mouvement extrêmement intéressant, d'une part parce que c'était un mouvement horizontal qui partait des besoins et des volontés de politisation des classes populaires, qui problématisait la question du partage de l'effort climatique, puisque ça passait par une critique de la taxe carbone. La taxe carbone qui est une taxe régressive qui pèse beaucoup plus lourd sur les ménages populaires que sur les ménages aisés. Donc la taxe carbone
c'est
qui
de
a été... Voilà,
qui
est vraiment de l'écologie bourgeoise, qui a été défendue par les écologistes gradés depuis le Grenelle de l'environnement, justement, où on s'est dit « Ah, bah, ça va être une bonne idée de faire payer les pots cassés par la grande bourgeoisie aux classes populaires ». Et donc le mouvement des Gilets jaunes, en cela, pour moi, a été un mouvement écologique de premier ordre ces dernières années. Et la jonction ne s'est jamais réellement faite. C'est-à-dire que quand il y a eu une manifestation commune qui finalement a eu lieu, c'était à l'automne 2019, la direction de Greenpeace et des ONG ont appelé à quitter la marche au premier gaz lacrymogène et ont abandonné en quelque sorte les Gilets jaunes à la violence d'État. Parce qu'ils considéraient que eux, en tant que militants installés et tolérés dans les institutions, n'avaient pas à subir ce type de répression. Et ça a marqué en fait une espèce de hiatus infranchissable entre les classes populaires en mouvement, ramenées au rang de classes dangereuses, et les classes bourgeoises qui défendaient un avenir radieux pour leur chère progéniture. Et derrière ça, on a eu la Convention citoyenne pour le climat, qui a ramené la controverse démocratique sous cloche, dans des espaces pacifiés, qui nous a fait quand même gober pendant des mois et des mois que Édouard Philippe ou Emmanuel Macron allaient prendre en charge enfin l'écologisation de la société, et que c'était les héros internationaux nationaux du renouveau démocratique.
Mais qu'est-ce que vous critiquez dans ce projet démocratique, qui est quand même pas si inintéressant que ça, quand même, mobiliser des citoyens, les former pour faire des propositions? Parce que si Emmanuel Macron avait acté toutes les propositions de la Convention citoyenne, on aurait quand même fait un sacré pas en avant, non?
Il n'y avait aucune chance que ça ne soit le cas, malheureusement, Mathieu. C'est-à-dire que dans la Constitution de la Ve République, les Conventions citoyennes pour le climat n'ont aucune assise légale et législative. Donc c'était rendre le ballon, en quelque sorte, porte à Emmanuel Macron, qui est quelqu'un qui est un banquier fanatisé, qui a aucune, la seule direction politique qu'il applique, c'est le taux de rentabilité du capital en France. Il n'en a évidemment rien à cirer de l'écologie. Il fait du greenwashing pour essayer d'avoir du gain politique et symbolique. Et les écologistes, et notamment Cyril Dion, ont magouillé avec lui pour créer cette forme d'événementialité complètement artificielle. On a 150 citoyens qui, pardon de le dire, ont été instrumentalisés pour la cause d'Emmanuel Macron. Et il n'en est ressorti qu'à peine 10% de mesures qui ont été appliquées, qui étaient les 10% oui, les plus anecdotiques. Donc c'était reproduire.
Si ça avait été adopté, ça n'aurait pas été inintéressant. Oui, quand même.
Si, on met Paris en bouteille. C'est ce que je reproche avec l'écologie du spectacle et de la sensibilisation. On a reproduit en fait le même spectacle lamentable que le Grenelle de l'environnement en 2007, à mon avis. Et sensibiliser 150 citoyens sur un corps électoral de 40 millions de personnes, ça ne m'apparaît pas une contribution significative.
Donc pareil pour
à
vous,
la
il aurait pas fallu le faire,
environnementale.
Ça
je pense que c'était une mauvaise idée. Je pense que c'était une mauvaise idée. Ouais.
Donc absolument inutile.
Je pense qu'elle a été.
Vous avez dit que ça a quand même servi à sensibiliser quand même un peu les consciences.
Pas vraiment.
Et à faire en sorte quand même qu'on mette le sujet sur la place publique pendant assez longtemps quand même.
Ça, c'est pareil. C'est pour moi de l'écologie du spectacle. Il ne suffit pas de mettre le sujet sur l'espace public à tout prix pour faire avancer l'écologie. Ça dépend sur quelle base on met le sujet dans l'espace public. Et je pense que c'est une erreur de le mettre sur la base d'une collaboration, d'une discussion, d'une négociation avec la classe capitaliste.
Clément Sénéchal, on verra dans un instant quelles sont vos pistes de réflexion, tant qu'à faire, pour essayer de redonner à l'écologie des chances de gagner. Et puis on verra que votre livre a suscité pas mal de crispations à votre égard. Vous le racontez dans la postface et on en discutera dans un instant. Vous répondrez également aux messages qui arrivent pour vous sur franceinter.fr.
France Inter. La Terre au carré.
Donc il faut la fin du capitalisme.
Si vous voulez.
Parce mais du coup, fait, comme je vous disais, on voudrait parler du fond.
Mais vous savez, ce qui est intéressant, c'est que vous nous dites, d'une part, l'UNFP, enfin, pas vous spécifiquement, mais l'UNFP, il faut rester tous ensemble, machin truc, il faut être à quatre ensemble, de Poutou à Hollande, il faut tenir. Par contre, les écologistes, vous allez devoir vous subdiviser en 12 cases, vous serez 12 ennemis par case.
C'est quoi qui vous tient ensemble, en fait ?
L'écologie, elle est indivisible. Celles et ceux qui veulent nous qualifier, ajouter l'écologie et un adjectif, veulent en fait nous diviser. Je ne vais pas me soumettre à la question et à devoir me justifier de à quelle heure je suis radicale. Moi, ces débats politico-médiatiques sans fin, où on se branle la nous sur des questions qui n'ont pas de sens, ne m'intéressent plus.
Marine Tondelier, dans une vidéo du journal L'Humanité, c'était en décembre 2024, Clément Sénéchal avec ce livre qui paraît en poche, Pourquoi l'écologie perd toujours. Marine Tondelier qui avait d'ailleurs déclaré dans la même émission, il faudra m'expliquer ce que l'on fait à la place du capitalisme. C'est ce que vous reprochez d'ailleurs à beaucoup d'écologistes, encore une fois aujourd'hui, c'est d'être incapable de se positionner sur la question.
Déjà, dans le champ environnemental, il y a un tabou manifeste à propos du capitalisme. Et a priori, la secrétaire nationale des écologistes ne s'est pas posée la question de rester ou pas dans le système capitaliste. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'avis, en fait, sur notre économie politique, elle n'a pas d'avis sur le mode de production, elle n'a pas d'avis sur notre rapport social à l'environnement. Elle n'a pas d'avis sur la manière dont on reproduit nos conditions matérielles d'existence. Alors, ce que c'est exactement ça qui structure aujourd'hui le ravage écologique, ce qui est plutôt inquiétant. Et ce qui m'apparaît édifiant, c'est par ailleurs la suite de l'extrait, où elle considère en fait le débat intellectuel, la production théorique, la doctrine, comme quelque chose de complètement superficiel. Donc elle propose en réalité d'agir sans réfléchir. Et quand elle dit l'écologie, c'est l'écologie, qu'elle refuse de préciser, et donc d'armer en fait l'écologie qu'elle défend, elle transforme l'écologie en signifiant vide, en référence, en référentiel circulaire, tautologique. Et donc, elle fait de la parole politique une langue morte petit à petit. Et on produit une écologie comme ça qui est sans contenu, sans réels adversaires, qui est davantage un slogan qu'un projet politique.
Est-ce que vous êtes celui qui divise justement les écologistes, Clément Sénéchal, dans les reproches qui vous ont été faits justement par beaucoup de têtes du mouvement? C'était un peu ça, c'est de vous dire, mais merci de nous faire de la mauvaise pub, parce qu'on n'avait vraiment pas besoin de ça pour essayer de faire un mouvement solide, et vous arrivez et vous cassez tout.
C'est pas de la mauvaise pub, c'est juste une analyse critique. La réception de la part des huiles de l'écologie a en fait été une belle mise en abîme de ce que je dis dans mon livre et a constitué en soi, à mon sens, un épisode de l'écologie bourgeoise. Alors déjà, on a ramené ma critique à un problème de comportement, c'est-à-dire que Marine Tondelier, elle dit qu'elle a un problème avec ce que je dis et avec ce que je fais. Cécile Duflo m'a dit en coulisses qu'il n'y avait rien à débattre autour de mon livre, que ça ne se faisait pas, que c'était un problème de comportement, avant de me traiter d'intégriste hein, sur le plateau de C'est ce soir, en empruntant la meilleure rhétorique de Gérald Darmanin. Donc en fait, il y a une allergie globale à la critique. On a essayé de me noyer dans ce consensus relativiste et confus des 50 nuances d'écologie. Donc moi, je venais briser cette belle unanimité où on m'a renvoyé au grand soir en permanence pour essayer de faire peur. Hein, dès qu'on critique le capitalisme, on est associé à une espèce de brutalité ténébreuse, ce qui reflète davantage, à mon avis, une forme de panique bourgeoise réelle chez ce personnel-là. Et d'autre part, une mentalité autoritaire, c'est-à-dire qu'eux, ils considèrent que le jeu électoral, qui est constitutif de notre démocratie représentative, est réservé, en quelque sorte, au bloc bourgeois, et que la gauche de rupture n'a rien à y faire. C'est-à-dire que moi, je propose aussi que la gauche de rupture prenne le pouvoir par l'intermédiaire des élections. Mais non, ça, c'est renvoyé à la question du grand soir, à Paris, à feu et à sang. Et,
donc vous dites qu'il n'y a pas de débat possible, finalement, entre écologistes, réellement, quand on va aller au fond des choses, et prendre déjà, juste le temps de... Déjà, les arguments.
Voilà. Déjà, il faut se défaire d'une illusion. L'écologie, elle est clivée hein, en tant que telle. Et l'écologie, le champ environnemental, il est soumis, comme les autres, à la question de la lutte des classes et aux contradictions politiques qui en émergent. Et ce que j'ai pu constater, c'est que parmi les écologistes installés, évidemment, le débat de fond, en fait, était complètement impossible. Après, il y a une autre réception du livre. C'est-à-dire que moi, il y a beaucoup de collectifs militants engagés sur le terrain, politiques ou citoyens, beaucoup de libraires aussi qui m'ont invité. J'ai fait plus d'une soixantaine de dates en à peine un an. J'étais sur la route quasiment toutes les semaines avec un accueil très enthousiaste. C'est-à-dire que les gens qui lisaient le livre n'étaient pas déprimés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la critique, ça permet de clarifier les choses. Et ça donne des clés de lecture, et donc ça permet de dynamiser aussi et de porter en avant tout un tas de personnes.
Plusieurs personnalités écolos en prennent pour leur grade, donc Marine Tondelier, on vient d'en parler, Marie Toussaint, oui, campagne européenne sans contenu, discours incantatoire, désaveu des luttes radicales, Yannick Jadot, stratégie centriste inefficace, refus de critiquer le capitalisme. Justement, au sujet de Yannick Jadot, la semaine dernière dans Le Point, on peut lire ceci, l'ancien candidat des Verts exhorte son camp à rompre avec ses réflexes dogmatiques et plaide pour une écologie réaliste qui regarde aussi vers le centre. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, Clément Sénéchal ?
Yannick Jadot, c'est un histrion de droite, fondamentalement. Il faut quand même se rappeler qu'il avait participé à la manifestation factieuse des forces de l'ordre devant l'Assemblée nationale en 2021, qu'il a contribué à faire perdre la gauche en 2022 en maintenant sa candidature, alors qu'il l'avait retiré au profit de Benoît Hamon en 2017, qu'il a déclaré devant le patronat qu'il s'émerveillait du capitalisme européen, qu'il était pour l'économie de marché, la libre entreprise, c'est-à-dire la liberté pour les entreprises de détruire la planète pour accumuler des profits, et aujourd'hui il assume carrément le terme de conservatisme, hein, ce qui est un glissement extrêmement préoccupant et qui est une faute politique majeure à mon sens. Il faut lire par exemple le livre d'Antoine Dubiot sur l'écofascisme, parce que ce genre de glissement, pour moi, il contribue à l'extrême droitisation de l'écologie, c'est-à-dire on va partir d'une volonté de conserver des écosystèmes vitaux à une volonté de conserver un ordre social. Et ça, c'est une opération rhétorique qui m'apparaît extrêmement condamnable de la part de Yannick Jadot, mais j'en attendais honnêtement pas grand-chose.
Yannick Jadot qui dit ne plus partager la ligne politique de Marine Tondelier, donc il y a aussi une rupture hein, très claire à ce niveau-là. Hein.
Je sais pas comment il arrive à caractériser la ligne politique de Marine Tondelier en l'occurrence, parce qu'elle m'apparaît extrêmement erratique. Pour moi, ils occupent à peu près le même secteur électoral qui est celui de la bourgeoisie culturelle ou de la petite bourgeoisie économique.
Quel mouvement au sein de l'écologie vous semble aujourd'hui porter les outils de cette rupture stratégique là dont vous parlez, qui serait nécessaire en tout cas ?
Alors il y a une écologie par le bas, extrêmement dynamique, extrêmement vivace, qui existe, que moi j'ai rencontré à l'occasion de la tournée autour du livre, qui est mal thématisée encore dans le champ public et politique. Il y a le mouvement des soulèvements de la terre, qui est extrêmement prometteur, qui permet en fait un renversement d'hégémonie au sein du champ environnemental entre une écologie du consensus et une écologie du conflit. Je pense que la classe ouvrière a son rôle à jouer. Elle est aux premières loges du réchauffement climatique en tant que classe productrice.
C'est un des enjeux d'ailleurs, regagner aussi les classes populaires. Hein. Vous l'expliquez très bien dans ce livre.
Absolument. Hein. L'avenir de l'écologie, ce n'est pas l'environnementalisme, c'est la lutte des classes. Et donc l'enjeu, ce n'est pas d'aller magouiller avec la classe dominante et d'aller chercher des petits postes en trahissant, c'est de travailler à l'unification des classes populaires à partir d'un horizon révolutionnaire. Et enfin, dans le champ politique, il y a des points d'appui qui existent, et notamment la France Insoumise et aussi Révolution Permanente ou l'ONPA dans une certaine mesure, pour parler de manière très concrète.
Alors, on va passer aux questions parce qu'il y en a beaucoup pour vous, Clément Sénéchal. Eh bien d'ailleurs, Yves nous dit, mais vous êtes en campagne pour LFI, Jean-Luc Mélenchon, vous avez invité son porte-parole, pourquoi pas, mais ça commence à se voir, nous dit Yves. Vous travaillez pour la France Insoumise, Clément Sénéchal ?
Je suis flatté par le compliment, mais pour l'instant non.
On va écouter un message pour vous, message vocal reçu sur l'application Radio France.
Antoine Mazamé dans le Tarn, question certainement un peu bête, mais à l'heure actuelle, à quelle personne politique peut-on faire confiance niveau écologie ? Quelle personne politique a réellement elle-même conscience du problème écologique ?
Bon, alors ça, c'est évidemment totalement subjectif, Clément Sénéchal, mais...
Il faut que je fasse une liste
Pas forcément, mais enfin, vous pouvez peut-être nous dresser un profil. En tout cas, est-ce qu'elle existe déjà, cette personnalité, selon vous, ou pas ? Est-ce qu'elle reste à inventer ?
Il y a plein de personnalités politiques qui prennent très au sérieux la question environnementale. Il y en a aussi chez les écologistes. Il y a des gens comme Sandrine Rousseau, comme... Harmonie Le Serre, qui portait une motion concurrente à celle de Marine Tondelier au dernier congrès. Il y a plein de personnalités de haut niveau chez la France Insoumise, il y a Clémence Guettet, il y a Mathilde Panot, il y a Alma Dufour par exemple, qui était une ancienne collègue aux Amis de la Terre quand moi j'étais à Greenpeace à l'époque. Donc il y a plein de gens qui prennent très au sérieux et qui sont très qualifiés aujourd'hui pour porter l'écologie.
D'ailleurs, Charlotte nous dit, pourquoi la question de l'écologie est-elle toujours associée à la gauche alors que c'est un sujet collectif qui devrait largement dépasser les clivages politiques ? Qu'est-ce que vous lui répondez ? C'est vrai, pourquoi c'est de gauche l'écologie ?
Je pense que c'est une erreur fondamentale de considérer que l'écologie échappe à la problématique politique et au débat démocratique. Ça, c'est un mauvais réflexe à avoir. L'écologie, elle est nécessairement de gauche, à mon sens, puisque elle est confrontée à un programme économique très précis qui est la sortie du capitalisme.
Victoria nous dit, constat très brut en vous écoutant, qui a le mérite de révéler certains comportements d'associations écologistes. Votre constat est carrément déprimant et désespérant. Où militer donc sans cautionner le système, demande-t-elle.
On a tous une zone à défendre près de chez soi. Il y a beaucoup de collectifs sur le terrain qui sont opposés notamment à des grands projets inutiles. Il y a une cartographie des luttes qui est opérée par les soulèvements de la terre. Encore une fois, il y a des syndicats révolutionnaires auxquels il faut adhérer. Il y a des forces politiques, j'en ai parlé juste avant, avec lesquelles militer dans les moments électoraux qui comptent. Donc en fait, il y a plein de choses à faire. Ce qu'il faut, c'est dégager du temps militant et éviter de considérer qu'en donnant simplement de l'argent, on arrive à s'engager par procuration. Ça, ça ne fonctionne pas à mon sens.
Thierry nous dit, comment se passer des énergies fossiles sans mettre en péril nos sociétés ?
La question, c'est plutôt comment continuer à brûler des énergies fossiles sans mettre en péril la société. Parce que là, on va sur une trajectoire à plus 3 degrés, au mieux d'ici à la fin du siècle. Ça veut dire des déplacements de population massifs, ça veut dire des pénuries massives, ça veut dire des logements qui vont disparaître à cause de la montée des eaux. Donc aujourd'hui, l'urgence, c'est d'aller vers une sobriété et assurée par un partage de l'effort et donc un partage des richesses.
Est-ce qu'on a le temps pour un dernier message vocal ? Oui, me dit Jérôme Boulet.
Bonjour, je suis tout à fait d'accord avec votre intervenant parce que je fais partie du conseil de développement d'une communauté de communes et nous avons utilisé les 149 propositions de la Convention citoyenne pour faire nos propres propositions adaptées à la communauté de communes et suite à cela, il y a eu des études de fait, des stagiaires qui sont venus, mais in fine, il ne se passe rien, donc c'est un peu le même système à tous les étages. À bientôt.
Clément Sénéchal, pour conclure, ce sera... Dernier message de cette émission.
Moi, je crois qu'il y a de l'espoir. Je pense que le capitalisme a des contradictions. Je pense que la classe dominante est aujourd'hui en souffrance et c'est pour ça qu'elle prend un tournant de plus en plus autoritaire. Je crois que la conscientisation et la politisation du sujet progressent au sein de la population et qu'il faut se battre. De toute façon, on a le devoir moral de s'engager quoi qu'il advienne.
Merci beaucoup Clément Sénéchal, je renvoie sur votre livre donc, qui paraît en poche avec une postface inédite, s'appelle « Pourquoi l'écologie perd toujours ?» et c'est aux éditions du Seuil et Point, en l'occurrence pour le format poche. Merci beaucoup.
Merci Mathieu.